chacun et à chacune, en particulier à celles et ceux que j'ai peut-être pas eu l'occasion de saluer ce matin. Tu as raison, David, je vais poursuivre donc notre série de prédications autour du thème général « Devenir un disciple émotionnellement sain ». Ce thème est inspiré du livre éponyme de Peter Scazzero. Et après avoir exposé les failles qui peuvent entraver en profondeur la maturité spirituelle et émotionnelle d'un disciple, Peter Scazzero nous présente en ces termes ce qu'il entend par « disciple émotionnellement sain ». Il nous rappelle qu'un disciple émotionnellement sain est une personne qui prend son temps pour être avec Jésus. Une personne qui descend sous la surface de sa vie pour être transformée en profondeur par Jésus. Une personne qui offre sa vie comme un don au monde pour Jésus. Et dimanche dernier, notre frère Loïc nous a présenté l'une des 7 qualités ou caractéristiques d'un disciple qui veut grandir spirituellement et émotionnellement de manière saine. Il nous a rappelé qu'avant de faire pour Dieu, ce disciple commence par être avec Dieu. À partir des figures de Marthe et Marie, il nous a encouragé à réfléchir à la manière dont l'Écriture nous invite à bien articuler l'être avec Dieu et le faire pour Dieu. Sans opposer l'un et l'autre, si vous avez lu le petit billet de méditation qui accompagnait la lettre hebdomadaire de la semaine dernière, vous avez vu que sans opposer l'un et l'autre, nous rappelons qu'un disciple spirituellement et émotionnellement sain prend le temps de s'asseoir au pied du Seigneur, il est enseignable, il se nourrit et s'abreuve en profondeur des paroles du Seigneur. Et c'est à partir de cette communion vitale qui nourrit son cœur, sa vie intérieure, son être tout entier, que par l'élan de l'amour du prochain. Et cet amour du prochain qui implique aussi de se mettre au service de celui-ci. Alors ce matin, j'aborderai une seconde qualité du disciple qui veut grandir spirituellement et émotionnellement de manière saine, à savoir connaître qui est le Jésus que nous suivons. C'est la slide suivante. Cette question simple, presque basique, fondamentale, est pourtant toujours essentielle. D'ailleurs, si on refuse d'y réfléchir, autant mieux ne pas lire les évangiles tout simplement. Parce que c'est la question qui est au cœur de l'évangile. Mais quel est donc cet homme de Jésus? Quel est le Jésus que je suis? Le disciple est par définition quelqu'un qui marche derrière, quelqu'un qui se met à la suite d'un maître pour se laisser instruire par celui-ci. Il est donc fondamental que celui ou celle qui dit s'être mis ou mise à la suite de Jésus soit bien au clair concernant l'identité de celui-ci. Quel est ce Jésus que je suis? La question de l'identité de Jésus est présente au cœur de l'évangile. Et Jésus lui-même n'a pas manqué de poser la question à ses disciples à mi-parcours de leur cheminement à ses côtés. Je vous invite à lire ensemble ce texte de Marc chapitre 8, les versets 27 à 33. En attendant qu'on change l'écran, n'est-ce pas? Je vais encore cligner des yeux pour lire. On va revenir au texte. Jésus, c'est bien ça, Marc 8, 27 à 33, s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors, il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Et il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ont conservé la mémoire de cette conversation entre Jésus et ses disciples à propos de son identité. Nous ne sommes pas tout à fait au début du ministère de Jésus, nous ne sommes pas non plus à la fin de son ministère terrestre. C'est donc à mi-parcours de son ministère. Alors qu'ils sont en chemin dans la région de Césarée de Philippe, que Jésus adresse à ses disciples cette question à propos de son identité. Elle est en fait, je l'ai dit dans mon introduction, la question dont traitent les évangiles. Qui est cet homme de Jésus ? En premier lieu, Jésus aimerait savoir ce que pensent les foules à son sujet. Comment il est perçu ? Il voudrait prendre le pouls. Que disent les gens ? C'est le premier sondage IFOP avant l'heure. Que disent les gens ? Que pensent les gens au sujet de moi ? C'est une question somme toute humaine. Chacun de nous, nous posons souvent la question, mais que pensent les gens de moi ? Comment les gens me perçoivent ? Si je me comporte ainsi, si je dis ceci ou ne dis pas cela, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Il nous importe de savoir ce que pensent les gens de nous. Il importait aussi à Jésus de savoir d'une manière générale que pensaient les gens de Jésus. Alors, il commence par ceux qui ne font pas partie du cercle de disciples. Que pensent, d'une manière générale, les autres à mon sujet ? Et là, Jésus reçoit une réponse de la part des disciples qui lui disent comment il est perçu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Et d'autres disent encore que tu es un prophète du passé. Vous remarquerez que dans les 3 réponses, Jésus leur envoie à des personnes qui sont déjà mortes. Au moment où il leur pose cette question, Jean-Baptiste a déjà perdu sa tête. Élie, n'en parlons plus, ça fait longtemps qu'il est tout blanc. Et alors ceux qui ne savent pas dans quelle catégorie classer Jésus se disent, peut-être un autre prophète. Cela veut dire quand même qu'ils avaient compris que Jésus n'était pas juste un discoureur quelconque. Ils avaient compris que Jésus les renvoyait par son enseignement et par les signes miraculeux qu'il réalisait à des figures prophétiques. Et il est vrai que si nous relisons le ministère d'Élie, nous verrons que Élie a accompli des miracles que Jésus lui aussi accomplit. Ou alors les miracles de Jésus nous renvoient à Élie. Et puis d'ailleurs, il y a une tradition juive, y compris reprise par l'Écriture, qui dit que Élie va revenir. Et que cet Élie-là qui va revenir, ça sera en quelque sorte une figure messianique. Mais de Jean-Baptiste, l'Écriture ne nous a pas dit les miracles qu'il a accomplis. Vous connaissez un miracle de Jean-Baptiste dans la Bible ? Je suis sincère quand je pose la question. Jean-Baptiste, il nous a dit qu'il a prêché, il a appelé à la repentance, il a été fidèle, le précurseur du Christ, et il a baptisé de nombreuses personnes en leur disant, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit d'ailleurs ? Repentez-vous ? Un message qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas ? En fait, Jean-Baptiste, il n'était pas si préoccupé que ça de comment est-ce qu'on voulait le voir. Certains voulaient le voir comme un Messie. On a d'ailleurs envoyé des gens à demander à Jean-Baptiste, « Es-tu le Messie ?» Et qu'est-ce qu'il a répondu ? « Je ne le suis pas. » « Es-tu plus grand que lui ? » ?»« Je ne le suis pas. » »« Est-ce toi qui nous donneras le Saint-Esprit ? » ?»« Ce n'est pas moi. » »« Mais qui es-tu ? » ?»« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » »« Préparez le chemin du Seigneur. » Et il a perdu sa tête, injustement, mais littéralement, simplement parce qu'il a prêché ce que le Seigneur lui demandait à prêcher. Il a pris un risque, il aurait pu esquiver, ne pas voir ce qu'Hérode avait fait, ne pas le reprendre. Mais sa prédication était prisonnière, captive de la vérité de la parole de Dieu. Et donc, comparer Jésus à Jean-Baptiste, à Élie, n'est pas complètement loin de la vérité, mais sauf qu'il est plus que Élie. Et il est plus que Jean-Baptiste. Et comme la rumeur avait enflé et que Jésus intriguait, la rumeur est arrivée aux oreilles même de Hérode, comme nous pouvons le lire. Au chapitre 9, je sors un peu de Marc pour aller dans Luc, versets 7 à 9. Nous lisons que Hérode, le gouverneur de la province, apprit tout ce qui s'était passé. Il était embarrassé. En effet, certains disaient, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. D'autres disaient, c'est Élie qui a reparu. D'autres encore, c'est un des prophètes d'autrefois qui est revenu à la vie. Mais Hérode se disait, Jean, je l'ai moi-même fait décapiter. Mais alors, qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses ? Et il cherchait à le rencontrer. On retrouve la même question. Jésus est une personne qui nous intrigue. Qui est cet homme ? J'aimerais le rencontrer. Est-ce ta question ce matin ? Qui est donc cet homme de Jésus ? J'aimerais le rencontrer. Oh, Hérode, sans doute pour des raisons de contrôle, pour des raisons de dire, ah, si j'ai encore un ennemi, un de ces prédicateurs qui va encore m'importuner, que je lui règle son compte. Mais il n'empêche que la question est là, qui donc est ce Jésus que nous suivons nous aussi 2000 ans, plus de 2000 ans après ? Aujourd'hui encore, beaucoup sont ceux qui ne savent pas qui est Jésus. Et simplement, j'ai envie de dire, au plan de la culture générale, en mars 2022, l'Alliance biblique française, en association avec l'hebdomadaire La Croix, commande un sondage IFOP intitulé « Les Français et la Bible ». L'une des questions était de savoir qui est Marie, qui est Joseph, Marie, Jésus. Tout simplement, au panel de répondants. C'est de la culture générale. À votre avis, combien de Français sur 5 sont capables de répondre à cette question ? combien de Français sur 5? Ah bon, il y a, c'est vrai qu'il y a tout le panel. Il y en a qui pensent que c'est 2, il y en a qui pensent que c'est 3, il y en a qui pensent. Alors ceux qui pensent que 4 Français sur 5 peuvent répondre à cette question, levez un peu la main. Il y en a qui sont sceptiques, hein. Mais vous avez raison. 4 Français sur 5. 4 Français sur 5. Donc, on a encore quand même une couche de culture générale. Mais quand même, ça veut dire que 20%, 1 sur 5, ne sait rien au sujet de Joseph, de Marie, de Jésus. C'est-à-dire que si on lui dit qui est Jésus, c'est... D'ailleurs, vous allez le voir avec cette vidéo d'Alpha, on va éteindre les lumières. On va mettre une petite vidéo pour celles et ceux qui écouteront le message. Sachez que c'est une vidéo sur qui est Jésus. Et vous pourrez retrouver cette vidéo, non pas sur notre site, mais sur le site d'Alpha ou en ligne. Allez, on va écouter. Écoutez bien. Jésus, le chef des catholiques. Jésus, un vieux souvenir. Jésus, un mythe. Jésus, un hippie. Il y avait d'ailleurs un film, hein, je ne sais pas, vieux, hein, Jésus de Montréal, où il est présenté justement sous forme de hippie. Hein. Un mec barbu en tongs. Jésus, un mytho. Jésus, c'est tout le monde. Jésus le sauveur, un mec qui s'est cru pour qui il n'était pas, il se pourrait qu'il reviendra, bienvenue. C'est cru de vérité, ça illustre très bien là où nous en sommes, dans notre société déchristianisée, dans notre société où on ne peut plus partir du postulat que les gens savent qui est Jésus, ou que quand on leur parle de Jésus, ils ont forcément un a priori de bienveillance. Et nous devons l'intégrer, y compris dans la façon dont nous sommes appelés à témoigner de Jésus au monde aujourd'hui. Mais peut-être qu'ici, nous avons des perceptions de Jésus qui peuvent nous paraître ou nous sembler grotesques. Et alors, c'est comme si Jésus avait... nous avait tendu le micro ce matin et en disant, mais allez là dans la rue, allez là au supermarché, allez là à l'esplanade, j'ai appris qu'il y a des milliers de personnes qui courent ce matin-là. Et posez-leur la question, qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Et voilà un peu le florilège de réponses qu'on pourrait entendre. Mais Jésus ne se satisfait pas simplement de la réponse générale d'une foule. La réponse de Jésus, elle a deux volets, un volet général et un volet plus particulier, plus personnel. Et c'est à ce moment-là que je me retourne vers vous également, comme nous l'avons vu dans le récit. Et vous, qui dites-vous que je suis? Où en es-tu ce matin? Et toi, qui dis-tu qu'il est cet homme de Jésus? Par cette question et par ce « et vous », nous pressentons que Jésus souligne l'importance pour lui de savoir à mi-parcours avec ses disciples, là où ils en sont avec lui. Est-ce qu'ils ont simplement des connaissances générales de lui? Est-ce qu'ils le perçoivent comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme un prophète revenu? Et vous, qui dites-vous que je suis? La question est donc plus profonde. Elle engage ici la foi même des disciples. Et dans les trois évangiles, cette question débouche sur la confession de foi de Pierre qui reconnaît derrière la personne de l'homme Jésus et au-delà de la figure du prophète, il reconnaît que Jésus est le Messie, loin envoyé par Dieu. Et c'est cette même vérité théologique que Matthieu exprime avec d'autres mots. Tu es le Christ, Christos, celui qui a reçu l'onction, le Fils du Dieu vivant. Et Luc dit, tu es le Christ de Dieu. Jésus est le Messie qui vient de Dieu. Ne nous arrêtons pas là. Le texte ne le fait pas. Le texte souligne deux commentaires importants. Et ceci dans les trois évangiles. Cette confession de foi de Pierre est suivie de deux commentaires du narrateur. Premièrement, c'est dans le contexte de cette confession de foi de Pierre que Jésus annonce pour la première fois à ses disciples sa passion et les souffrances qui lui seront infligées. Dans les trois évangiles, c'est à partir de ce moment-là que pour la première fois, Jésus va parler à ses disciples de la croix. La deuxième remarque du narrateur, c'est que Jésus défend à ses disciples de faire connaître son identité à la suite de cette révélation. Nous sommes donc dans une double temporalité différenciée. C'est-à-dire, d'une part, Jésus considère que le temps est venu pour ses disciples, pour ceux qui sont proches de lui, d'intégrer la perspective de la croix comme faisant partie du chemin du disciple. Le temps pour eux est venu d'accueillir cette perspective. Mais d'autre part, Jésus considère que le temps n'est pas encore venu pour les autres de savoir qui il est vraiment. Or, il faut reconnaître que chez Luc, au verset précédent, Jésus avait multiplié d'ailleurs les pains. Et les foules qui avaient bien mangé, qui avaient vu ce miracle, cherchaient à le faire roi. Et Jésus s'était éclipsé. Pourquoi cette double temporalité différenciée? Un temps pour les uns de comprendre que la croix fait partie de la formation et du programme. Et pour les autres, ce n'est pas encore le temps de découvrir qui il est, vraiment. Nous sommes dans ce temps où nous savons que Jésus a fait son chemin de croix et nous venons de partager le pain et le vin. Et nous sommes dans ce temps, après la résurrection, où nous savons que tout le monde maintenant doit entendre qu'il est le Messie et le Christ. Et pourtant, nous aussi, nous devons nous poser la question, peut-on suivre Jésus sans accepter la croix? Ce n'est pas une prédication facile. Ce n'est pas une interpellation facile. On peut aimer Jésus. Et on peut se mettre à la suite de Jésus sans aimer la croix de Jésus. et sans vouloir croiser la croix de Jésus. Peut-on être vraiment disciple de Jésus sans accepter la croix? L'exemple de Pierre est éloquent. Pierre aimait Jésus. Il aimait le Messie enseignant, dont la sagesse et la parole confondaient les religieux et frappaient les foules. Il aimait le Jésus thaumaturge, le Jésus faiseur de miracles, dont la puissance impactait les vies et interpellait les adversaires. Il a aimé aussi le Jésus glorifié, puisque l'Écriture nous donne deux présentations complémentaires de Jésus. Il est décrit comme le serviteur souffrant, l'homme de douleur, celui qui est défiguré par la souffrance et de qui l'on détourne le regard. Et Pierre oublie ce pan-là. Il détourne d'une certaine façon le regard de cette description messianique. Et il y avait une autre description messianique. C'était le Messie glorieux, le Messie triomphant, le Messie qui règnera et qui établira la justice pour toutes les nations. Et c'est ce Messie-là que Pierre veut suivre. Pourquoi? Parce que Pierre, à ce stade de son cheminement, n'avait pas encore intégré la perspective de la croix. Il n'avait donc pas intégré la réalité de la souffrance comme faisant partie du cheminement du maître. Il n'avait pas intégré que ce maître accepterait de subir l'injustice. Il n'avait pas intégré l'humiliation dans le service du maître. Être disciple sans la croix, c'est beaucoup de choses. Je résume ici 4 points. C'est rechercher l'approbation des hommes plus que celle du Seigneur. Être disciple sans la croix, c'est préférer ce que les autres pensent de toi plutôt que ce que Jésus pense de toi. C'est être davantage centré sur son moi, son ego. Et Pierre en était encore à ce stade. Seigneur, j'ai laissé ma barque, j'ai laissé mon travail, parce que j'ai cru en toi, parce que j'ai vu une opportunité en toi. J'ai vu que j'allais régner avec toi. Et viens là. Et toi, tu dis que tu vas être à la croix. Et nous, on devient quoi? C'est préférer son plan à soi plus que celui du Seigneur. Être disciple sans la croix, c'est choisir le pouvoir pour se servir plutôt que le pouvoir du service. Qui est le plus grand parmi nous? De quoi vous discutiez en chemin? Non, de rien. Vous discutez pour savoir qui est le plus grand parmi vous? Eh bien, que celui qui veut être le plus grand s'abaisse et se fasse serviteur. Jésus nous met en garde en nous disant que les rois et les autorités de ce monde les tyrannisent. Ils aiment le pouvoir pour se servir eux. Ils n'aiment pas le pouvoir pour servir l'intérêt général. Il dit, mais vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Vouloir suivre Jésus sans la croix, c'est évacuer la réalité de la souffrance comme partie intégrante de la vie. C'est refuser d'intégrer que ceux qui veulent marcher à la suite du Christ auront aussi leur lot de souffrances à cause du Christ, à cause de leur attachement au Christ. Ce n'est pas la souffrance que tous les hommes, toutes les femmes de la terre connaîtront. C'est une souffrance spécifiquement liée au nom de Jésus-Christ, une humiliation d'être au 21e siècle un chrétien. Je suis dans un cercle avec des amis compatriotes camerounais. doit être une 25, et parmi les 25, il y en a bien au moins 15 qui sont des médecins spécialistes en France. Cardiologues, néphrologues, pédiatres, etc. Nous avons fait nos études ensemble. Et souvent dans notre WhatsApp, je vois passer des pics contre les chrétiens. Je vois passer des messages. Ils disent, ah, finalement, la religion, c'est une manière de trouver un sens à sa vie. Je vois souvent passer des messages avec un tel mépris, considérant que si vous êtes croyant, chrétien par exemple, c'est que vous avez trouvé une voie facile pour régler tous vos conflits internes. Pas besoin de ça. Heureusement que nous avons aussi des médecins ici qui me rassurent quand je vois leur foi et leur attachement au Christ et leur simplicité aussi. Évacuer la réalité de la souffrance et un autre élément que j'ai vu, et je ne vais pas être trop long, confondre la réussite humaine et la réussite en Dieu. Philippe de Courroux a chanté un chant dans lequel il dit une parole qui va résumer un peu la pensée que j'ai ici mis en petit point. Il y a une différence entre réussir dans sa vie et réussir sa vie. Nos parents rêvent, bien avant notre naissance, que nous soyons des hommes et des femmes qui vont réussir dans leur vie. Alors, par l'école, par l'artisanat, par la dimension artistique, de bien de manières, ils veulent, à juste titre, que nous soyons des gens qui ont réussi dans leur vie. Et en bon français, on ne dit pas le salaire, n'est-ce pas ? On ne dit pas son compte en banque. Mais en réalité, tout le monde brûle de savoir combien l'autre gagne. Et tout le monde brûle de savoir combien l'autre a mis de côté. Et nous mesurons la réussite dans notre vie en fonction de... Est-ce que tu es déjà propriétaire ? Est-ce que ton crédit est déjà fini de payer ? Est-ce que tu as des enfants qui font des écoles d'ingénieurs ? Est-ce que... Vous savez, en 2003, quand je suis allé à l'ambassade de France, jeune diplômé de droit, appelé par le Seigneur à tout laisser derrière moi pour venir en France, j'étais au consulat général de France. J'avais 23 ans. Je suis tombé sur une dame tellement condescendante. Elle me regardait, me dit « C'est pourquoi ?» Je lui dis « Mais c'est pour ma procédure de visa. Pour faire quoi ?» Mais je lui dis bah, « J'ai une inscription à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, là. Je voudrais aller faire mes études de théologie. » Franchement, c'est tout ce que vous avez trouvé ? Je dis, ben écoutez, pour moi, c'est un appel, c'est une vocation. 23 ans. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Vocation tardive ? Je dis, ben non, il ne me semble pas. Je dis, non, mais parce que les gens qui viennent demander des visas d'études ici, c'est pour des études d'ingénieur. C'est pour faire une grande école. En France, on n'a pas trop besoin que vous veniez pour faire des études bibliques. Vous pouvez faire des études bibliques en Afrique. Elle m'a refusé le visa. Mais nous avons un Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Je suis retourné 9 mois après. Les frères et sœurs avaient prié. J'avais dit au Seigneur, « Ok, c'est pas grave. Trop tard pour retourner à la fac de droit, je donne un temps sabbatique. » Je me suis occupé des jeunes. C'est une sorte d'aumônerie des GBU. Je les aidais à tenir bon dans la foi. Et le jour de mon rendez-vous, alors que mes parents avaient viré, ça faisait beaucoup d'argent en francs camerounais quand même, c'était presque 5 millions de francs CFA, un peu plus de 6 000 euros à nos gens. L'école m'avait dit, est-ce qu'on vous renvoie l'argent ? J'ai dit non, gardez l'argent. Je viendrai l'année suivante, par la foi. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et l'argent est resté en France une année scolaire. Et le jour que je me suis représenté à l'ambassade, je garde jalousement mon passeport comme preuve. Hein. Je vous le montrerai si vous voulez, mon ancien passeport camerounais. Et là, le Seigneur avait dégagé la femme condescendante. Oui, et il avait mis une femme que je ne connaissais pas et qui m'a dit, mais c'est formidable ça. Qui m'a dit, mais je vous souhaite beaucoup de chance, monsieur. qui m'a dit que Dieu vous bénisse. Et là, j'ai compris ce verset de l'Écriture qui dit que quand le Seigneur approuve les voies, c'est un homme, c'est une femme. Il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ne forcez pas les portes que le Seigneur n'ouvre pas. Si j'avais forcé cette porte et que j'étais venu par moi-même, je vous assure, je n'aurais pas tenu dans le ministère en Europe. Quand on force les portes, à l'étape suivante, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, on est perdu. On se demande, est-ce que c'est parce que j'ai forcé la porte ou est-ce que c'était vraiment le Seigneur qui a ouvert? Mais au fond de nous, on sait quand nous avons forcé la porte. Je peux vous dire, et je le crois, Bible à main, que le Seigneur, quand il nous ferme des portes, il a fait pour Paul, mais c'est parce qu'il veut nous conduire parfois à Macédoine, où il a ouvert une porte. Alors peut-être ce matin, tu t'acharnes sur une porte fermée. Peut-être commence à demander au Seigneur quelle est la porte qu'il a ouverte pour toi. Ou alors, de te garder en paix, le temps viendra où il ouvrira lui-même la même porte. Il est le Dieu du dégagement. Il dégage ce qui ne va pas. Et il nous donne ce qu'il nous a promis, par amour et par grâce. Mais ce Dieu-là que nous aimons, quand tout va bien, nous dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, Jésus avait vu qu'ils aimaient le Jésus du succès, le Jésus de la bénédiction, le Jésus des mariages, le Jésus de la prospérité. Moi, j'entends ça matin, midi et soir. Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va te donner, c'est ton année, etc., etc. Et beaucoup suivent Jésus, Père Noël. Mais Jésus, il était sincère, honnête, et il est. Il ne nous cache pas que marcher à sa suite est un défi. Est un défi qui implique que nous allons pleurer. Le packaging n'est pas... On pourrait dire, mais Jésus, tu n'as rien compris, il ne leur dit pas ça. Mais non, il dit d'avance. Nous sommes en mi-parcours. Jésus les appela, il appela la foule et il leur dit, si quelqu'un, ça veut dire que Jésus ouvre la porte, il est possible que tu dises, non, je ne veux pas te suivre dans ces conditions. Mais il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Parole suivante, si un homme... parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, homme ou femme, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus insiste ici sur trois choses, hein, trois points qui vont être mis devant nous, seront en fait la conclusion. Quel Jésus suivons-nous? C'est la question de départ. Et un disciple qui veut grandir spirituellement doit se débarrasser de ce que Peter Scazzero appelle l'image du Jésus américanisé. Alors il a fait son ministère en Amérique, donc ce n'est pas pour stigmatiser les Américains. Mais ce qu'il appelle le Jésus américanisé, c'est le Jésus imaginaire finalement. Le Jésus aux yeux bleus, à la chevelure blonde. Le Jésus beau chic, beau genre. Le Jésus qui ne me reprend jamais. Le Jésus qui est à mon service. Le Jésus qui ne me remet jamais en question. Le Jésus powerful. Puissant, le Jésus impactant. En fait, le Jésus tel que je le veux. C'est un peu ça, l'américanisation, d'une certaine façon, de Jésus. Et même si nous sommes en France, ça marche aussi. c'est Jésus tel que je le veux, tel que je veux qu'il soit là pour moi. Mais ce n'est pas le Jésus tel que l'Écriture me le donne. Et Jésus que nous voulons suivre, c'est le Jésus crucifié. C'est le Jésus qui n'a pas esquivé la croix. C'est le Jésus qui a payé le prix pour nous. C'est le Jésus qui a renoncé lui-même à sa vie et qui nous dit trois choses, trois verbes. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il soit prêt à renoncer à soi-même. Le verbe grec ici, c'est un verbe qu'on peut traduire, qu'il soit prêt à dire non. La première chose que Jésus nous dit, es-tu prêt à dire non ? Mais non à qui ? Non à toi-même d'abord. Es-tu prêt à te décentrer de cette tyrannie de ton ego, de cette tyrannie du moi ? Alors tout à l'heure, notre frère nous a partagé une parole, un avertissement. Il a pensé qu'il m'est venu, je me suis dit, mince alors, c'est moi qui prêche souvent avec la connaissance, est-ce que cette parole me touche ? Et maintenant, je sens tous les yeux se dire, ah, c'est bien fait, pasteur. Et puis, je me suis dit, je suis sûr que les autres pensent exactement la même chose. Chacun se regarde en se disant, mais est-ce à moi ? C'est la bonne attitude. On aurait voulu que toutes les paroles aillent dans le sens de Dieu vous aime, de Dieu vous bénit. Mais il y a cette parole courageuse qui dit, Dieu m'interpelle. Où en est mon cœur ? Où j'en suis par rapport à l'orgueil ? Et par rapport à l'amour du frère. Si ça a piqué, c'est qu'il y a certainement quelque chose que Jésus veut travailler. Et si tu as ressenti la même chose que moi, eh bien, tu es sur la bonne piste aussi. Dis non à la tyrannie de l'ego. Descends de ton piédestal. Tu ne peux pas suivre Jésus en restant essentiellement centré sur toi. La deuxième chose que Jésus nous dit, c'est dis oui à la croix. Il y a un non à dire, il faut savoir dire non à soi et non à certaines choses, mais il faut aussi savoir dire oui. Et nous avons chanté que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il nous dit, dis oui à la croix, alors qu'il se charge de sa croix tous les jours. Dire oui à la croix, c'est se mettre sous le même joug que son Seigneur. C'est se laisser configurer à Jésus-Christ, dire oui à la croix, c'est accepter aussi que la souffrance fait partie du chemin du disciple. Ça, l'évangile de la prospérité ne voit pas ça. L'évangile qui dit toujours tout ira bien ne voit pas ça. L'évangile qui dit toujours bénédiction ne voit pas ça. L'évangile qui n'accepte pas la souffrance ne voit pas ça. Mais Jésus nous dit pourtant, dis oui, consent à la croix. Parce que c'est par la croix que le Christ nous a sauvés. Mais il ne s'agit pas de vouloir souffrir pour souffrir. La souffrance en elle-même est absurde. Et pourtant, cette souffrance nécessaire, puisque Jésus dit, je dois passer par là. Et il nous dit que le disciple aussi devra passer par là. Et alors, si les deux premières conditions sont remplies, Jésus dit, troisième verbe, marche à ma suite. Il s'agit de marcher derrière Jésus, pas devant Jésus. Il s'agit donc que nous apprenions à mettre nos pas dans les traces de Jésus. Je vous recommande, le temps me manque, une lecture de ce que Dietrich Bonhoeffer dit sur la grâce à bon marché et le prix de la grâce. J'avais choisi quelques morceaux à vous lire, mais je préfère donner le mot de la fin à Charlotte que j'ai baptisée il y a quelques mois, et qui va venir nous témoigner, parce que beaucoup se sont inquiétés de ne pas la revoir, mais nous savions qu'elle était dans nos cœurs et dans la prière de beaucoup, et c'est avec joie ce matin qu'elle est parmi nous et qu'elle souhaitait nous partager ce qu'elle a écrit dans son cahier. Elle est arrivée ce matin en disant, pasteur, est-ce que je peux partager ça ? Viens, viens Charlotte. Et il me semble que ça nous parle de cette marche du disciple qui parfois est confronté à la croix. Alors, je te tiens le micro si tu veux. Comment tu veux procéder ? Non, ça va, parce que c'est sûr. Ah bah, je te laisse tenir le micro.
Merci. Allez. Alors, pardon. Seigneur, créateur de l'invisible et du visible, toi qui entends nos silences, nos désirs indicibles. Tu scrutes nos âmes, tu connais nos secrets. Dans l'ombre et la lumière, tu es là, discret. Ce matin, avant l'aube, tu m'as appelé. 3h30, dans le silence, tu m'as éveillé. Aujourd'hui, témoigne, tu m'as dit sans hésiter. Déclare ma grandeur, raconte avec sincérité. J'ai paru chigner, je me suis fait un café. J'ai pris mon bic noir pour écrire dans ce carnet. Depuis mon baptême, tout a basculé, changé. Les murs de ma vie se sont mis à trembler. Mais dans la tempête, tu as été mon ancrage. J'ai trouvé en toi mon éternel rivage. Oui, Seigneur, grâce à toi, je danse sous l'orage. J'ai vu mes rêves se briser comme des éclats de verre. T'as recollé mes morceaux alors que j'étais par terre. Les doutes m'ont envahi, pourtant ma foi jamais faiblie. Ton amour m'a soutenue, voyant mes forces s'évanouir. Si tu as mis à l'épreuve ma foi, ma croyance, sache que c'est dans ces ténèbres que j'ai trouvé ma danse. Aucun doute, aucun test m'a fait fléchir. Au contraire, ils ont forgé ma force de rebâtir. À chaque secousse, je sens ton esprit m'élever. Quand mes jambes vacillent, c'est toi qui me fais avancer. Le soir, je viens, le cœur parfois troublé, mais tu es là, ma paix, tu m'aides à respirer. Seigneur, que tes mots s'élèvent comme unique souffle de vérité, que chaque âme t'entende, qu'elle soit touchée par ta bonté. La nuit, ta lumière brille comme une étoile filante. La nuit, ta lumière guide ceux et celles qui la demandent. Et tu éclaires mes pas, et tu éclaires nos pas par ta présence vibrante. Je te rends grâce, Seigneur, pour chaque épreuve vécue, pour chaque étape où ta présence a tout résolu. Je témoigne de ce chemin de la force qui, en moi, m'a permis d'avancer sans boiter et avec foi. Merci pour ta protection, pour ta main sur mon épaule, pour cette voix qui m'apaise quand la tristesse me frôle. Aujourd'hui, je suis là, témoin de ton amour. Et je te rends gloire, ô Seigneur, pour chaque jour. Seigneur, je témoigne encore de ta puissance, que puissent trouver ceux qui vivent dans l'errance, pour que chaque âme entende cet appel qui vient du cœur, car dans la nuit la plus noire, tu es la seule lueur. Seigneur, toi, l'alpha, l'oméga, notre sauveur. Voilà.
Je vous laisse juste cette dernière parole de l'apôtre Paul, et que peut-être cela reste au cœur de la façon dont nous, de nos préoccupations. Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen.
La louange, vous pouvez remonter avec moi.